Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le jeudi 12 août 2021. Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner au cours de cette heure en français. Au programme, nous aurons le sport, comme chaque jeudi, nous parlerons d'économie dans le pays, en Australie, et nous parlerons également de cinéma et du MIF qui se dirige en ligne cette année. Mais pour l'heure, on va passer au journal. On commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Canberra et l'ACT qui entreront dans un confinement dès ce soir. On revient sur cette nouvelle qui vient de tomber dans notre journal. Le Victoria qui enregistre 21 nouveaux cas de coronavirus acquis localement, dont 4 infections mystérieuses, alors que le Queensland enregistre 10 autres cas et la Nouvelle-Galles du Sud 345. De développer la nouvelle pour Canberra et l'ACT, la Nouvelle-Galles du Sud, donc je viens de vous le dire en titre, qui a enregistré 345 nouveaux cas de transmission communautaire, dont 60 personnes qui étaient infectieuses dans la communauté. Deux autres décès ont également été enregistrés. Cela porte à 37 le nombre de total de décès associés à cette épidémie. Il y a maintenant 347 personnes hospitalisées, 62 sont en soins intensifs et 29 sont sous respirateur. Il y a eu un record, 152 000 tests effectués au cours des dernières 24 heures et 106 000 vaccinations dans l'État. La plupart des cas ont été enregistrés dans la région de Canterbury, Bankston, mais les responsables affirment que ces cas se stabilisent. En raison des problèmes de transmission, les régions de Burnwood, Strathfield et Bayside auront désormais des restrictions supplémentaires à partir de 17 heures. Aujourd'hui, on écoute la première de Nouvelle-Galles du Sud.
Based on health advice, there'll be 3 additional local government areas which we'd foreshadowed yesterday to be included, which brings the total local government areas in the Greater Sydney area to a dozen. From 5 o'clock this evening, Bayside, Strathfield and Burwood local government areas will also be included in those areas of concern.
Voilà, donc pour la Nouvelle-Galles du Sud, et d'ailleurs on reste en Nouvelle-Galles du Sud, la première, donc Gladys Berejiklian, a préfiguré de plus grandes libertés pour les résidents donc de l'État qui se feront vacciner tout en excluant la levée des restrictions avant le 28 août. Gladys Berejiklian affirme que les zones avec des taux de vaccination élevés et un faible nombre de cas pourrait, et je souligne le pourrait, avoir des règles assouplies avant même d'avoir atteint le 70% qui était fixé. On l'écoute.
I think it's important to say to people that if we have higher rates of vaccination, there is every chance you might be able to do something more than what you can today. And I think for most people, that is incentive. We've seen how the incentive of getting back to work in the last few days has really ignited people to get vaccinated. Those incentives work. And if we can incentivize people to say that if you're fully vaccinated, you might be able to undertake activity which you can't now, well, that's a positive. And I think most people would appreciate that.
Voilà, donc Gladys Berejiklian pour la Nouvelle-Galles du Sud. Alors, je vous le disais en titre, le territoire de la capitale australienne, l'ACT, entrera en confinement de 7 jours à partir de 17h aujourd'hui, après qu'un cas de Covid-19 ait été enregistré. Les autorités sanitaires affirment que le cas était contagieux dans la communauté et c'est pour ça que le confinement est instauré. L'ACT a enregistré son dernier cas. C'était un cas international il y a 105 jours. Un diplomate qui était en quarantaine et le dernier cas acquis localement remonte à plus d'un an. Le ministre en chef de l'ACT, Andrew Barr, a déclaré que des réponses importantes étaient nécessaires pour devancer le variant Delta. On l'écoute.
We do not currently know the source of the infection, but extensive investigation has been underway for many hours. This is the most serious public health risk that we have faced in the territory this year, and really since the beginning of the pandemic.
Voilà donc pour l'ACT. Le Victoria qui a enregistré 21 nouveaux cas de coronavirus acquis localement, dont 4 infections qui sont toujours sous investigation. Le service de santé ce matin a confirmé que 17 des nouveaux cas sont liés à une épidémie connue, tandis que 15 étaient en quarantaine pendant leur période infectieuse. Quelques 45 000 tests ont été traités au cours des dernières 24 heures et 25 000 doses de vaccins ont été administrées dans l'État. Alors pendant ce temps-là, également, le Queensland qui a signalé 10 nouveaux cas de transmission communautaire. La première ministre du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a déclaré que tous avaient été isolés pendant leur période infectieuse. On l'écoute.
In more good news today, we have 11 new cases, but 10 of them are all linked to the Indooroopilly cluster, and they're all in home quarantine. So that's fantastic news. And one person was detected in hotel quarantine from overseas. So that's fantastic news. We're very happy with that.
Donc Anastasia Palaszczuk pour le Queensland. Le gouvernement du Victoria qui limite davantage les permis de voyage pour les résidents dans la bulle à la frontière avec la Nouvelle-Galles du Sud. Les permis entrent en vigueur demain soir et viseront à garantir que les voyageurs ne traversent la frontière que pour 6 raisons essentielles. Le Premier ministre Dan Andrews a déclaré qu'il était essentiel d'avoir une image forte et plus claire, la plus claire possible des voyages au sein des communautés frontalières. Étant donné la propagation du virus dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Le confinement de 7 jours du Victoria qui devait être levé ce soir a été prolongé d'une semaine pour permettre aux traceurs de contact de maîtriser l'épidémie. Le gouvernement du Victoria s'apprête à annoncer son dernier plan de sauvetage pour les entreprises touchées. Ce sera la troisième ronde de financement en autant de semaines, donc en 3 semaines, avec un soutien de 800 millions de dollars déjà annoncé. On écoute Dan Andrews.
We'll be doing lots of communications along those border communities so that people know, but it's not good enough to limit movement. You need to know who's moving. And before anyone says, oh, why would you do that? If this virus can get from Sydney to Byron Bay, to Dubbo, to Armidale, to Tamworth, then only a fool would think that it couldn't get to Albury. It absolutely can.
Voilà, donc Daniel Andrews. Allez, pour conclure sur les infos sur le Covid et sur la pandémie en France, le président Emmanuel Macron a justifié l'extension du pass sanitaire et a de nouveau appelé les Français à se faire vacciner, car pour lui, la rentrée sera placée sous le signe du Covid. Les explications avec Valérie Gasse.
Emmanuel Macron a interrompu sa pause estivale pour lancer un nouvel appel à la vaccination.
Notre objectif, c'est la vaccination de tous les Français qui peuvent être vaccinés. Tenir au moins la cible de 50 millions de primo-injections à la fin du mois d'août.
À la rentrée, une campagne de vaccination va cibler les jeunes dans les établissements scolaires et les populations à risque auxquelles sera proposée une troisième dose. Et à partir de mi-octobre, les tests sans prescription ne seront plus gratuits. La vaccination, c'est une assurance tout risque contre la réanimation, a martelé Emmanuel Macron, qui prépare les Français à une rentrée sanitaire compliquée.
La crise sanitaire n'est pas derrière nous. Nous allons vivre pour encore plusieurs mois avec ce virus.
D'ici là, la Martinique et la Guadeloupe seront confinés. La Polynésie en état d'urgence sanitaire. Tous les voyageurs en provenance de pays à risque devront se soumettre à des tests antigéniques. Des mesures adaptées à la reprise de l'épidémie selon Emmanuel Macron, comme l'extension du pass sanitaire qui fait l'objet de critiques.
Jamais dans notre histoire, une crise d'une telle ampleur n'a été combattue de manière aussi démocratique. Nous avons rendu publiques toutes les données dont nous disposions sur lesquelles nous fondions nos décisions. Nous avons pris des décisions et c'est ce qui est attendu de celles et ceux qui président et gouvernent.
Au creux de l'été, Emmanuel Macron affiche sa fermeté.
13h09, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Allez, direction l'Afghanistan maintenant, la situation se tend de plus en plus. Le Pentagone américain donc insiste sur le fait que la chute de Kaboul n'est pas inévitable, alors que les talibans viennent poursuivre leur blitz dans le nord-est de l'Afghanistan, s'emparant de 3 autres capitales provinciales et du quartier général de l'armée locale. Les gains donnent aux talibans le contrôle de 2/3 du pays, alors que les États-Unis et l'OTAN finalisent leur retrait. Mais la riposte s'organise pour tenter de sauver Mazar-e-Sharif, la plus grande ville du Nord. Les explications de Yelena Tomic.
En observant la carte de l'Afghanistan, seules quelques provinces du centre, dont la région de la capitale Kaboul et des districts dans l'Est, sont encore sous le contrôle des forces de sécurité afghanes. Les trois quarts du pays, de vastes territoires dans l'Ouest et le Nord, sont tombés entre les mains des talibans, dont l'avancée fulgurante de ces derniers jours ne surprend pas les observateurs. Tous les regards se tournent désormais vers Mazar-e-Sharif, ville stratégique du Nord, où le maréchal Dostum, puissant dirigeant ouzbek, a envoyé d'importants renforts pour contrer les insurgés. Le président Ashraf Ghani s'est également rendu sur place pour y rencontrer les responsables de la sécurité et des dirigeants djihadistes. Objectif, préparer une riposte et empêcher que cette dernière ne soit capturée par les insurgés. La situation humanitaire inquiète de plus en plus, avec pas moins de 360 000 civils qui ont dû fuir ces derniers jours leur foyer et des témoignages d'atrocités commises par les talibans dans les villes conquises dans le nord. Autre fait majeur, le ministre afghan des Finances a annoncé avoir démissionné de ses fonctions et quitté le pays.
Voilà donc Valérie Gasse pour l'Afghanistan. À moins de 3 mois de l'élection présidentielle au Nicaragua, les opposants doivent choisir entre fuir le pays et se laisser arrêter. Carmela Roger, la présidente de l'opposition dans le pays, a dû quitter le pays. Une situation très compliquée donc avant les élections présidentielles. Le point avec Arim Lipold.
Selon Kitty Monterrey, plus personne n'est en sécurité au Nicaragua. La présidente du parti d'opposition Citoyen pour la Liberté s'est exprimée dans la presse costaricaine après sa fuite. Avant de quitter le Nicaragua, le régime Ortega lui avait retiré sa carte électorale et son passeport. Le porte-parole de son parti, un ancien ambassadeur, a lui aussi voulu fuir, mais il a été arrêté lundi dernier. Ce sont désormais 30 opposants qui se trouvent écartés de la présidentielle de novembre prochain, dont 7 candidats potentiels. Le président Daniel Ortega, qui brigue avec son épouse Rosario Murillo un quatrième mandat, n'a donc plus de concurrents sérieux. Cette répression, qui a commencé en 2018 avec les manifestations anti-Ortega, a amené les États-Unis et l'Union européenne à mettre en place des sanctions contre le Nicaragua. Cette semaine, le régime Ortega a retiré ses ambassadeurs de 4 pays d'Amérique latine, dont le Mexique et la Colombie. Ces pays avaient rappelé leurs ambassadeurs pour consultation afin de protester contre la dernière vague d'arrestations des opposants. Selon certains observateurs, le Nicaragua pourrait, à l'instar du Venezuela, se retrouver de plus en plus isolé sur la scène internationale.
Voilà donc pour le Nicaragua. Allez, pour conclure ce journal, direction Singapour. Maintenant, ce petit pays a atteint un chiffre record, le record de 40% de recyclage de ses eaux usées. Gabriel Maréchaux.
À regarder la météo de Singapour, il est difficile de se dire que ce pays est en stress hydrique, reconnaît le professeur Snyder, directeur de l'Environment and Water Research Institute.
Il pleut tout le temps et pourtant on manque d'eau, cela paraît fou, mais c'est plutôt logique. Singapour est un petit pays avec une densité parmi les plus élevées au monde. Donc il n'y a pas la place pour collecter cette eau de pluie. Il y a des infrastructures pour désaliniser l'eau de mer, mais cela prend beaucoup plus d'énergie que de recycler les eaux usées.
Ainsi, l'eau qui part dans les toilettes parcourt des kilomètres de tuyaux, pompes, filtres et rayons UV pour ensuite ressortir ultra pure dans les robinets des particuliers et de nombreuses industries qui ont besoin d'eau d'une pureté absolue. Une métamorphose sans fin dont Singapour est fier, comme le montre cette vidéo de l'Agence nationale de l'eau.
Le recyclage des eaux usées, c'est un peu comme de la magie ou de l'alchimie. Personne ne veut d'une eau usée et nous, on la convertit en une ressource utile et précieuse.
Pour le professeur Snyder, la façon dont Singapour économise ses ressources en eau est sans pareil, mais malheureusement, difficilement réplicable.
Souvent, les villes attendent de se retrouver face à des crises environnementales terribles pour se dire « ça serait sans doute bien de recycler l'eau », mais malheureusement, ce genre d'infrastructure prend énormément de temps.
Singapour, elle, investit plus de 6 milliards d'euros pour tâcher de rendre ses 728 km² de territoire plus indépendants sur le plan hydraulique.
C'était Gabriel Maréchaux, donc à Singapour. Allez, coup d'œil météo pour conclure ce journal. Aujourd'hui à Perth, il fera 18 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 16 également, Hobart 13, Canberra 16, Sydney 21, Brisbane 25, Cairns 27 et Darwin 34 degrés. Rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Canberra et l'ACT qui rentrent en confinement dès ce soir à 17h. Un cas de coronavirus a été détecté. Le Victoria qui a enregistré de son côté 21 nouveaux cas acquis localement, dont 4 infections mystérieuses. Le Queensland en enregistre 10 et la Nouvelle-Galles du Sud 345. Voilà, 13h14, courte pause et on rejoint Jean-Noël pour le journal des sports dans quelques instants. A tout de suite.
Vous aimez le programme en français ? continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord la saga de Messi, Lionel Messi qui est avec le Paris Saint-Germain. Il a signé pour 2 ans et avec une 3e année optionnelle, retour sur la journée mouvementée d'hier, sa conférence de presse, Thomas de Saint-Léger, Radio France Internationale.
L'Argentin a passé une grosse demi-heure dans l'auditorium du Parc des Princes, au programme photo avec son maillot du PSG frappé du numéro 30 et surtout réponse aux questions des journalistes. Qu'a-t-il pensé, par exemple, de cet accueil dingue réservé par Paris et ses habitants depuis hier? Les premiers mots de l'homme aux 6 ballons d'or depuis son arrivée.
Comme je l'ai dit, je remercie tous ces supporters qui étaient dans les rues. J'étais à Barcelone quand le communiqué est paru. Les gens étaient déjà dehors alors qu'il n'y avait pas encore eu de négociations directes. Les gens sortaient comme si j'étais déjà en partance. Je leur en suis très reconnaissant. J'espère pouvoir être à la hauteur. On va bien sûr profiter de tout cela. J'espère que ce sera une année extraordinaire pour tous les supporters et pour nous sur le plan sportif.
Lionel Messi qui, sur le plan sportif justement, a annoncé la couleur. Il veut gagner la Ligue des Champions avec le PSG, avec son ami Neymar, avec aussi Kylian Mbappé. Ces trois-là formeront une ligne d'attaque royale et l'Argentin s'en frotte déjà les mains.
Je ressens un bonheur incroyable à l'idée de pouvoir évoluer avec eux. C'est fou de pouvoir partager mon quotidien avec de si grands joueurs. Il y a eu des recrues spectaculaires en plus de l'effectif déjà en place. Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer à m'entraîner et débuter la compétition. Je vais le faire aux côtés des meilleurs et c'est beau. C'est merveilleux de vivre ce quotidien.
L'association Mbappé-Neymar-Messi, la MNM, qu'on ne devrait pas voir tout de suite sur les terrains, a priori Lionel Messi devrait attendre un peu avant de jouer son premier match sous les couleurs parisiennes, sans doute le 29 août à Reims.
Et puis c'était la folie devant le Parc des Princes, reportage de Carlos Pissarro pour RFI.
Dès la première heure, la foule était nombreuse autour du Parc des Princes. Tous les fans voulaient voir Messi et certains venaient de très loin.
Oui, on vient de très loin même pour le voir. J'ai ma petite qui est supportrice, elle voulait assister à ce moment historique, donc on est là.
Qu'est-ce que ça va changer avec l'arrivée de Messi au Paris Saint-Germain?
Bah, ça va peut-être donner le coup de pouce pour franchir, comme tout le monde dit, le palier pour gagner la Ligue des Champions, même si on avait déjà une belle équipe. Si Mbappé reste avec Neymar plus les autres, ça va peut-être changer la donne pour la Ligue des Champions peut-être.
Entre-temps, dans la salle des presses des stades, c'était le chaos. Des médias du monde entier se disputaient les places. Un Messi souriant et détendu répondait aux questions à côté d'un président Nasser très très fier.
And this is amazing and historic day for the club.
C'est un jour incroyable et historique pour le club et pour le football mondial. Un moment fantastique. Tout le monde connaît Léo, le seul joueur à avoir remporté 6 ballons d'or.
Heureux d'avoir fini avec les obligations protocolaires, Messi n'a plus qu'une envie, retrouver le terrain et ses nouveaux coéquipiers.
Que va emmener Lionel Messi au Paris Saint-Germain? Il coûte très cher, mais il va rapporter beaucoup au club, comme nous l'explique Alexis Bédu pour RFI.
L'arrivée de Lionel Messi, c'est une étape de plus dans la stratégie économique des Qatariens, propriétaires du Paris Saint-Germain, faire venir des joueurs très rentables et assurer toujours plus de visibilité. Les revenus additionnels seront importants, Messi pourrait faire vendre 200 à 300 000 maillots supplémentaires par an. Puis il y a la billetterie du Parc des Princes et les sponsors qui ne manqueront pas d'affluer. Question visibilité, c'est le coup du siècle. L'Argentin a une aura mondiale, c'est désormais toute la planète foot qui regardera les matchs du PSG. C'est également bon pour la Ligue 1 et tous les autres clubs français. Sur les droits télé internationaux, le championnat est à la traîne avec seulement 80 millions d'euros par an. L'arrivée de Messi pourrait être un bon argument pour les renégocier. La ville de Paris pourrait aussi bien en profiter avec ses millions de fans à travers le monde. Léo Messi fait venir des spectateurs rien que sur son nom. À Barcelone, c'était déjà le cas. Le Camp Nou était devenu un passage obligatoire pour certains touristes. Avec son nouveau Prince, Paris pourrait bien vivre le même engouement.
Un mot sur la Supercoupe d'Europe. Chelsea et Villarreal ont joué hier en finale avec la victoire de Chelsea 6 buts à 5 au tir au but après prolongation. Et puis la Ligue des Champions, troisième tour de qualification retour. Monaco a battu le Sparta Prague 3 buts à 1, c'était mardi. Un mot de tennis pour vous dire que Novak Djokovic a déclaré forfait pour le tournoi de Cincinnati et préfère se reposer pour l'US Open qui débutera fin août. Rafael Nadal, après avoir déclaré forfait pour le tournoi de Toronto pour cause de blessure au pied gauche, a signalé aussi qu'il ne sera pas présent au tournoi de Cincinnati. Les Jeux paralympiques vont démarrer le 24 août prochain. Coup de projecteur sur la participation australienne. Ahmed Kelly est un nageur qui vise sa première médaille d'or. C'est sa troisième participation aux JO. Il est né à Bagdad et a été adopté par une famille australienne il y a 23 ans.
Many Paralympians have had to overcome so many different challenges to get to the starting line or behind the blocks or so on. And I think for us to get there and the stories that everybody will hear, it's quite incredible, and the sheer determination and the ability to never give up despite having a disability or despite having different challenges along the way to get ready and race your very best. It's quite incredible.
Kate McLaughlin est la chef de mission de ces JO paralympiques et elle a déclaré sur SBS News que ces JO sont une source d'inspiration pour d'autres personnes vivant avec un handicap.
I think it's an amazing platform for people with disabilities in Australia, not just from a sporting sense, because it changes the perception of what people with disabilities, you know, look like and are and how they can contribute to community. So whilst they are, you know, amazing athletes, they just highlight it once every 4 years when we get an opportunity, in the mainstream for people to appreciate what amazing things they can achieve in spite of their disability.
L'athlète paralympique de goalball Jenny Blow se prépare à disputer ses troisièmes JO. Le goalball est un sport exclusif pour les athlètes ayant une déficience visuelle. Ce sport est accessible aux malvoyants et aux non-voyants. On écoute Jenny Blow.
It's not even, we're taking away that it's no longer tokenistic and they're just chucking someone with a disability on TV to tick that box. No, it's because society has people with disabilities.
Mademoiselle McLaughlin déclare que le retard d'un an a été difficile pour tous les concurrents pour se préparer pour ces JO et que le simple fait de se rendre à Tokyo n'a jamais été garanti.
The backlash had these games been cancelled would have been absolutely devastating. I mean, I know firsthand from, you know, our athletes' perspective exactly how it impacted them when it was postponed in March last year. It was devastating to them. You know, this is something they've worked towards for the last 4 years, and to have it postponed is throws their whole plan out. So it was brilliant to see that it's continued to go.
Pour Ahmed et les autres athlètes, se rendre à Tokyo signifie que la moitié de la bataille est déjà gagnée. Ils ont toujours l'objectif d'une place sur le podium.
«
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et c'était donc Amour Toujours de Clara Luciani qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois d'août. 13h27, courte pause et on retrouve Nicolas Perpich pour décrypter l'économie en Australie tout de suite après ça.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Le gouvernement fédéral a décidé de poursuivre plus de 11 000 personnes qui ont reçu des paiements de la sécurité sociale pendant le pic de la pandémie.
Oui, voilà. Là, en fait, on parle de l'agence gouvernementale qui s'appelle Services Australia. Et ils disent qu'en fait, 33 millions de dollars ont été payés à des gens qui n'auraient pas dû recevoir cet argent qui a été donné à cause de Covid-19, et les gens qui ont perdu leur travail et ont eu d'autres difficultés. Donc l'agence a examiné les paiements que ces personnes avaient reçus du gouvernement, et donc ils ont conclu qu'ils n'auraient pas dû les recevoir, et ils veulent leur argent, ils veulent que ces gens rendent cet argent. Alors, les Verts et les travaillistes ne sont pas contents. Il y a la sénateur verte Rachel Seward, elle dit que c'est vraiment pas juste parce que le gouvernement poursuit les individuels, mais en même temps ne se laisse pas examiner ou ne répond pas vraiment à des questions à propos que des subventions que le gouvernement a données à des grandes sociétés. Et en fait, le Sénat avait essayé de faire nommer publiquement toutes les compagnies qui ont reçu JobSeeker, mais le gouvernement a bloqué ça dans le Sénat. Donc, on ne sait pas vraiment les détails de toutes les compagnies qui ont reçu JobSeeker. Alors, le gouvernement dit qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent poursuivre cet argent, que les gens doivent être payés correctement selon leurs circonstances, et ils essayent d'assurer que le système est fiable, et que les gens reçoivent quand même du soutien. Et en même temps, ils disent que c'est pas vrai ce que Rachel Seward dit, qu'en fait, oui, ils sont en train de poursuivre les grandes compagnies, les grandes sociétés aussi, mais on ne sait pas le taux, on ne sait pas combien d'argent a été donné à ces grandes sociétés qui, en fait, n'en ont pas eu besoin. Donc ça, c'est une histoire qui va continuer, mais c'est sûr que ce n'est pas des sommes énormes, mais quand même des sommes importantes, et peut-être ce ne sera pas la fin. Il y aura d'autres subventions qui vont être données, qui sont en train d'être données, bien sûr, avec les confinements à Sydney et aussi à Melbourne et ailleurs.
Et puis, Telstra, Optus et TPG sont poursuivis en justice suite à des allégations qu'ils ont trompé leurs clients à propos de la vitesse de leur NBN, la National Broadband Network.
Ouais, voilà. Et ce n'est pas la première fois, en fait. Ça s'est déjà passé. Mais voilà qu'encore une fois, The Australian Competition and Consumer Commission a annoncé 3 cas séparés dans la Cour fédérale. Et en fait, ces compagnies, donc Telstra, Optus, TPG, pourraient être obligées de payer des contraventions de des millions de dollars. Donc, assez étonnant parce que ces compagnies avaient promis à leurs clients qu'ils allaient tester la vitesse de leur NBN et si ça ne marchait pas, leur offrir des plans moins chers ou d'autres choses. Soi-disant, selon The ICCC, ces compagnies se seraient mal représentées parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils allaient faire, ils n'ont pas vraiment testé les vitesses, ils n'ont pas offert des plans différents. Les allégations contre ces compagnies, il dit que en fait les gens ont été trompés. des centaines de milliers de clients ont été trompés carrément par ces compagnies. Australian Competition and Consumer Commission, cette organisation, le chef c'est Rod Sims et il est furieux. Il a dit que c'est illégal et ils veulent que ces compagnies soient poursuivies. Donc ces compagnies, il y en a déjà qui, comme Telstra, qui ont commencé à essayer de faire quelque chose. Ils ont dit qu'ils sont vraiment très désolés et ils ont commencé à offrir à leurs clients de les rembourser ou de leur offrir un nouveau plan ou même quitter leur contrat sans avoir de pénalité. Mais ça ne sera pas assez. En même temps, même s'ils font ça, les tribunaux vont continuer et malgré ces efforts-là, c'est bien possible qu'ils vont devoir payer très très cher pour ça. Parce que comme on avait dit avant, c'est pas la première fois que ça se passe. Il y a 2-3 ans, il y avait eu le même problème. Et à cette époque-là, le ACCC et les autres étaient aussi furieux et les compagnies avaient promis de ne plus faire ça, mais voilà où ça recommence. Donc on pourrait s'attendre à des conséquences assez sévères cette fois, j'imagine.
Merci Nicolas pour cette analyse de l'économie australienne. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Télécharger émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Et vous aurez bien entendu reconnu le son très atypique de Stromae, cette chanson. Alors on danse. Il est 13h38, courte pause, et on parle de cinéma, du MIF, du Melbourne International Film Festival, qui aura lieu en ligne cette année, bien entendu, à cause du confinement dans le Victoria. On en parle tout ça tout de suite après ceci.
Vous êtes avec SBS French.
C'est le moment de parler cinéma avec Malo Hawkins, réalisateur d'un court-métrage, Une belle journée, sélectionné pour le Festival du cinéma de Melbourne, édition 2021. Monsieur Malo Hawkins, bienvenue sur les antennes de la radio SBS.
Merci de m'avoir.
Votre court-métrage, Une belle journée, a été sélectionné pour le Festival international du film de Melbourne, Melbourne International Film Festival. Nous allons en parler dans un moment, mais avant de parler de ce film, parlez-nous de vous et de votre parcours.
Je m'appelle Malo Hawkins, je viens de Lyon, en France. J'ai déménagé à Melbourne en 2017 et j'y suis depuis. Je suis retourné en France un peu l'année dernière, mais je suis resté à Melbourne depuis 2017, globalement. J'ai fait des études de cinéma à Swinburne, à Melbourne, ici. C'est pendant ces études que j'ai réalisé mon film, mon court-métrage Une belle journée, qui a été sélectionné au Festival international de Melbourne.
Votre court-métrage nous présente un couple qui entame un voyage en voiture, puis tout bascule. Je vous laisse plutôt le soin de nous parler du film.
L'histoire, c'est l'histoire d'un et oui, ça commence très bien, ils sont très heureux. Mais ouais, effectivement, le fait d'être tout le temps ensemble et puis d'être si loin de chez soi, ça rend les choses difficiles. Et puis, c'est un peu l'ultime test pour un couple d'être comme ça l'un sur l'autre et puis dans un espace aussi petit. Qui est un van. Et puis, on est souvent fatigué, on est sur la route. Et puis, la tension entre les deux dans un couple peut monter très vite dans ce contexte-là.
Donc, vous êtes donc franco-australien et votre film est produit en anglais. mais classé dans la catégorie langues étrangères. Était-ce un choix délibéré de le produire en français plutôt qu'en anglais?
Quand j'ai commencé à trouver l'histoire et que j'ai commencé à écrire, je me sentais plus confortable à l'écrire en français. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était plus une histoire française. Ça a facilité le processus d'écriture. Et puis aussi, dans l'histoire, le fait que ce couple-là soit français, qu'il soit si loin de chez eux, ça makes the stakes higher.
Le processus de sélection dans des festivals peut être difficile à naviguer, avec de multiples demandes, vraiment un parcours du combattant pour être sélectionné. Votre film...
J'ai juste submitted mon film au festival et puis ils m'ont envoyé un email pour me dire que j'ai été sélectionné. C'était une surprise, quoi, une très bonne surprise.
Et aussi, dans les festivals, il y a souvent des prix à rafler. Vous y avez pensé?
Ouais, potentiellement, même si je pense que ça n'arrivera pas, mais ça, oui, c'est potentiellement, c'est possible, oui.
En tout cas, je trouve qu'il est très bien fait, il a de très très belles images. Où est-ce que vous l'avez filmé?
Dans la campagne de Victoria, pas très loin de Melbourne, mais à peu près 2 heures de Melbourne, vers Warburton, Hillsville, par là-bas.
Et quand est-ce que vous l'avez produit?
On a filmé ça en 2019 maintenant, hiver 2019 à Melbourne. Et puis on a fini la post-production en mars 2020.
Le conflit que vous développez dans le film autour d'une tension qui jaillit dans un couple confiné dans un petit espace pendant des heures, à savoir leur van dans lequel ils sillonnent l'Australie, bien c'est un type de conflit qui peut se traduire aussi dans la vie en externe. Et surtout, je pense en ce moment même où nous avons des restrictions sanitaires, où les gens sont en confinement, bien les gens sont dans les pieds les uns des autres et des conflits peuvent surgir. Donc ça se traduit dans la vie réelle aussi.
Ouais, c'est vrai, j'y avais même pas pensé. C'est une drôle de coïncidence que l'histoire ça est actuelle en fait. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que nombre de couples ont dû vivre cette expérience l'année dernière et même maintenant avec les confinements répétés en Australie. C'est vrai, j'avais pas pensé.
Et le casting de ce film, ce sont deux acteurs. Qui sont d'évidence parfaitement francophones. Parlez-nous de votre casting.
Ça a été assez difficile de trouver des acteurs français à Melbourne. Héloïse, qui joue Mathilde, je l'ai trouvé par Facebook. En fait, on a fait un appel casting sur Facebook, sur des pages de francophones en Australie. Et elle n'est pas actrice de formation, elle est juste, c'était juste une étudiante qui vivait à Melbourne et qui est juste venue pour le casting pour essayer. Et on l'a trouvée très, très bien et on a été très contents de ce qu'elle a donné. Et puis après, Barnabé qui joue Alex, on l'a trouvée dans une agence d'acteurs et lui, il vient de Sydney. Du coup, il a dû descendre de Sydney pour venir à Melbourne. Et en fait, lui, il est comme moi, il est à moitié australien, à moitié français. Et sa mère est française, mais du coup, il a vécu en Australie presque toute sa vie, mais il parle français.
C'est votre premier film. Vous avez dit que vous l'avez produit pendant, donc après vos études. Et quelle est la suite? Vous avez d'autres projets cinématographiques, peut-être un long métrage?
Je travaille de mon côté avec des personnes avec qui je travaille, qui viennent de mes études, et on va faire des trucs tous ensemble en production indépendante. Je suis plus ou moins en train de travailler, d'écrire un court métrage en ce moment. C'est vraiment c'est le tout début, mais j'espère réaliser quelque chose dans l'année qui arrive et potentiellement peut-être retourner à MIF l'année prochaine, si j'en ai la chance.
Et je reviens encore sur les images, elles sont très très belles. Vous avez tourné dans la campagne australienne, les grandes routes et tout ça. Et c'était vous à la caméra?
Non, c'était pas moi à la caméra. C'est mon très bon ami Jacques Donald McDowell qui était étudiant avec moi à Swinburne aussi. Ouais, il a vraiment photographié le film très bien. Enfin, c'est très belles images. On en est très content. Et puis, j'avais pensé le film vraiment. Je voulais pas beaucoup d'images. Enfin, dans tout le film, je pense qu'il y a à peu près 25 plans en tout, même pas. Mais on voulait vraiment que chaque image soit très peaufinée, très belle, et que au lieu de faire beaucoup de plans, on voulait faire peu de plans et plus des prises longues, mais perfectionnées, quoi, qui soient très exactes.
Et quelles sont les dates de projection pour nos auditeurs?
Il y a une projection le 14 août, et après il y en a une autre le 21, il me semble. Et après il y a deux projections dans la campagne, enfin à Mildura et à Castlemaine, il me semble. Et puis après aussi sur la version en ligne du festival, avec plein d'autres courts-métrages qui ont l'air très très bien.
Monsieur Malo Hawkins, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler de votre film.
Merci de m'avoir reçu, c'était une bonne surprise. Je ne pensais pas qu'on allait passer à SBS. J'adore SBS, donc c'est une super nouvelle.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Et c'était Baby et Lulu. Elles sont de Sydney avec cette chanson Paris sera toujours Paris. C'est une reprise Baby et Lulu qui, bien sûr, c'est assez souvent qui sont dans notre programme. Et bien entendu, les grands titres aujourd'hui, c'est toujours autour du Covid et Canberra et la région de l'ACT qui rentreront donc en confinement dès ce soir. Un cas de coronavirus a été détecté sur le territoire. Confinement de 7 jours. Le Victoria qui a enregistré 21 nouveaux cas de coronavirus acquis localement, dont 4 infections qui sont mystérieuses. Et le Queensland enregistre 10 nouveaux cas et la Nouvelle-Galles du Sud 345. Voilà, on arrive à la fin de notre programme sur Radio SBS. Le temps pour moi de vous rappeler quelques adresses utiles pour toute l'information Covid et le reste de ce que nous produisons. Rendez-vous sur notre site internet sbs.com.au/french. Il y a bien sûr notre Facebook où nous sommes SBS French, facebook.com/sbsfrench. Et sur Twitter, nous sommes @sbsfrench. Je vous rappelle aussi le grand nombre de films disponibles sur SBS en demande. Films français, bien entendu, il y a toute une collection. N'hésitez pas à chercher simplement le mot French sur SBS On Demand. Ça vous donnera une centaine de films disponibles. Et dans ces périodes de confinement, ça fait également du bien. Prochain rendez-vous avec le français, ce sera samedi à 13h et dimanche à 13h également. La semaine prochaine, mardi et jeudi à 13h. Rendez-vous sur notre site internet sbs.com.au/french. Je vous souhaite un bon après-midi à tous. Et bien entendu, un bon appétit si vous êtes toujours à table. À samedi.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.